Merci Jésus pour cette bonne soirée, pour ce compte-rendu que je vais apporter pour réjouir les cœurs de chacun. Merci Jésus de bénir et de fortifier tous ceux qui sont là en train d'écouter. Amen.
Amen.
Voilà, eh bien, on est rentré d'Afrique. Ça a été combien? 18 jours, c'est ça, hein? 18 jours, mais intensifs. Enfin, au début, ça avait un peu de peine à démarrer parce que c'était surtout de l'humanitaire, mais quand même, c'était bien et ça a été crescendo. Alors, je suis parti avec Lucas, Olivier, c'était le 29 avril au soir, on est arrivé à Ouaga. Alors Lucas a dit, oh là là, l'impression que ça fait, c'est comme si on met la tête dans un micro-ondes. C'est vrai que c'est surprenant la chaleur, même le soir. Hein, voilà, le dimanche, on est allé directement à l'église de notre frère Nicolas Savadogo. Ouais, vous avez mis dans un hôtel, on n'a pas dormi dans son bureau comme d'habitude. Maintenant, je ne veux plus dormir là-bas. Je vais aller dans un hôtel, c'est quand même, à mon âge avancé, c'est quand même mieux. Il y avait la clim, c'était quand même bien. Hein,
c'était bien aussi pour moi.
C'était bien pour toi aussi, oui. Donc, on a eu ce culte chez Nicolas, on était très bien reçus. Et puis, Olivier, il a chanté un chant qui chante ici, donc dans nos réunions, mais il l'a chanté dans la langue morée. Alors, ça les a surpris, ils étaient tout contents, ils étaient vraiment émerveillés. Et puis, l'après-midi, on était invités à une réception d'action de grâce chez Nicolas, parce que vous savez qu'il est devenu maire de sa commune, une commune quand même de 50 000 habitants, et ils ont fait une réception là-bas tout de suite quand il est passé maire. Et de mémoire de ministre et de député, il n'y a jamais eu autant de monde dans une réunion pour, je sais pas comment on dit, l'investiture d'un maire. Il y avait des milliers de personnes. Et il n'y a pas eu une seule bagarre, pas un problème. Donc, Nicolas a réuni tous ses amis chez lui, ils avaient tout décoré, enfin pas à l'intérieur, mais dans la cour et puis jusque dans la rue. D'après Nicolas, il y avait à peu près 1500 personnes. Moi, je sais pas, je me suis pas amusé à compter. Nous, on faisait partie des VIP, hein. On était assis à la table avec Madame le Haut Commissaire, Monsieur le Ministre de je sais plus quel de truc, des députés, des pasteurs, enfin bon. C'était tout du beau monde, et puis voilà. Alors Nicolas, il a sorti des tas de bouteilles de vin, de whisky, de je sais pas où il a sorti ça. Alors bon, parce qu'il y avait beaucoup d'inconvertis quand même qui étaient là, et bon, mais c'était très sympathique. Il y a eu des chants, il y a eu leur musique, Olivier a encore chanté, enfin, moi j'ai pu dire aussi un petit mot, mais il y avait tellement de bruit, c'était un peu difficile, mais c'était une fête, hein, c'était une fête, c'était magnifique. Lundi, départ pour Boussé, c'est-à-dire pour la ville là où Nicolas est maire, et puis on a fait la distribution du mil et du maïs aux plus pauvres des pauvres, c'est-à-dire que bon, bah, dans toutes les communes il y a des pauvres, mais là-bas les pauvres, c'est pas les pauvres d'ici. Hein. La plupart c'était des veuves ou des vieux messieurs très très très, on sait pas quel âge ils ont, mais on dirait qu'ils ont 300 ans, quoi, je sais pas. C'est des caricatures de caricatures. C'est incroyable de voir cette misère. Donc on y avait, grâce aux dons que les gens fidèles sur Révélation Bible font avec PayPal, on a pu offrir 6 tonnes à ces personnes-là. Alors évidemment, c'est pas énorme, mais quand on pense que ces gens-là ne mangent qu'une fois tous les 3 jours, c'est fou, hein.
Ouais.
C'est fou. Ils remplissent leur ventre avec de l'eau polluée la plupart du temps. Et puis là, c'était vraiment émouvant, émouvant, émouvant. Et quand on a eu distribué tout, eh bien, ils avaient mis les sacs dehors devant la mairie, une chaleur. Alors, Lucas, Olivier et moi, on puisait dans les sacs, puis on versait dans les. Il y en avait même qui n'avaient même pas un sac, donc il y avait une vieille dame, elle est arrivée, elle a enlevé le torchon qui lui saignait les reins pour qu'on lui mette sa portion, et puis elle est repartie comme ça, toute voûtée. C'était bouleversant, et puis quand on a eu fini, il y avait des graines par terre encore. Et il y a quelques enfants qui sont venus, puis avec leurs petites mains, ils ramassaient ça, ils mettaient ça dans des petits sachets. Là, je pleurais, je dis à Nicolas, bon, moi, je veux bien te donner tout ce que tu veux, mais je veux plus participer à ça. C'est insoutenable de voir tant de misère, tant de pauvreté, moi, ça me tombe dessus, c'est terrifiant. Alors, un grand merci à ceux qui ont donné, qui ont été généreux, et vraiment, merci, merci, merci. Mais bon, moi, je veux plus aller distribuer. Je donnerai à Nicolas et puis ils distribueront eux-mêmes. Ouais. Je veux plus faire ça. Vous êtes d'accord, ouais, hein, les frères, ouais, c'est difficilement supportable de voir ça. On n'est pas. Voilà. Et puis ensuite, alors, il y avait des femmes de la mairie qui avaient été nommées pour prendre dans des charrettes un ou deux sacs pour amener à des veuves dans des villages. Parce que la commune, c'est des petits hameaux, vous savez. Alors, il y avait dans ces petits hameaux, il y avait des femmes trop vieilles ou trop malades pour pouvoir venir chercher leur part. Alors, elles ont nommé des gens de la mairie pour aller apporter ça. Moi, je dis, c'est qui cette bonne femme qui part avec deux sacs là? Puis Nicolas me dit, non, attends, t'inquiète pas, c'est pas pour elle, elle va distribuer ça à des personnes nécessiteuses qui peuvent pas se déplacer. C'était très touchant. Donc on a fait des photos. Là, on en a mis une trentaine sur Révélation Bible. Mais prochainement, Philippe Navez va nous faire une belle vidéo d'à peu près un quart d'heure qui va vous faire un beau résumé de tout ça avec des vidéos, des photos. Là, j'attends encore des vidéos que quelques frères vont m'envoyer de là-bas. Et puis, on mettra ça sur Révélation Bible. Et puis ensuite, on a visité l'orphelinat qui a été créé et qui est dirigé par Nicolas Savadogo. Et la dernière fois qu'il était venu, nous avait demandé, vous rappelez, des panneaux solaires et des batteries, parce que dans les chambres des enfants, il n'y a pas l'électricité. Alors, il y a trois enfants qui se sont fait mordre par des serpents, parce que les serpents rentrent à l'intérieur le soir, et puis ils étaient dans les lits, et les gamins se sont fait mordre. Bon, ils ne sont pas morts, mais quand même, c'est une crainte. Voilà. Donc maintenant, ils peuvent allumer la lumière. Les serpents, ça leur fait peur. Ils rentrent plus. Et puis en plus, les gamins peuvent bouquiner encore un petit peu dans leur chambre le soir. Ça coûte rien, c'est des panneaux solaires. Alors, c'est bien. On a fait comme Jacouille la fripouille, jour, nuit. On a vu que ça marchait. Il y a l'électricité maintenant dans les chambres. Et ça, c'est aussi grâce aux donateurs, grâce aux gens généreux. Merci. Et puis, on a distribué des fournitures scolaires à ces gamins. Il y a 250 orphelins quand même maintenant. Au commencement, il a commencé avec deux ou trois. Et maintenant, il y a 250 gamins là-dedans. C'est fou. Et puis après, réunion d'évangélisation. Alors, réunion d'évangélisation, alors toujours des chants à n'en plus finir, des danses à n'en plus finir. Je crois que je regardais Lucas, lui c'était la première fois qu'il voyait ça, il ouvrait des grands yeux parce que on n'a pas l'habitude de danser comme ça dans nos églises ici, et même ici en France les Noirs ils dansent pas comme ça, hein. C'était très fort. Et puis alors le premier soir on a prié pour les malades et bon, on a estimé qu'il y avait à peu près 60 personnes qui ont confessé avoir été guéries par Jésus. Et les pasteurs, j'ai demandé aux pasteurs de me faire des photos de chaque personne avec leur témoignage. Et puis voilà, parce qu'on n'a pas pu, il n'y avait plus le temps, il fallait qu'on rentre. Et vous savez que le soir, en plus, il faut pas rentrer trop tard parce qu'il y a des coupeurs de route. Les coupeurs de route, c'est des bandits qui vous arrêtent, qui vous dévalisent s'ils ne vous tuent pas. Donc faut pas rentrer trop tard, voilà. Donc, et puis alors, on a eu droit au fameux repas au bord des routes. Avec le monsieur qui dépèce l'animal devant vous, qui lui enlève les boyaux, qui les vide, enfin il y a tout ça dans la chaleur, les odeurs, les machins, tout ça. Enfin bon, c'est pas servi dans les assiettes, hein, c'est servi dans un bout de papier de sac ciment, voilà, bon, ça. Ça fait drôle, mais enfin bon, c'était pas mal, hein, Lucas, quand même. Hein. Et puis en plus, c'était bon, hein, cette viande grillée comme ça. Et on était surpris aussi parce qu'ils mettent beaucoup de piment. Alors, bon, les piments, si on n'aime pas, faut bien préciser, faut pas mettre de piment. Ils disent oui, ils en mettent quand même. Donc voilà. Ensuite, on est parti un autre jour à Zan pour livrer le moulin, parce que le moulin, normalement, on aurait dû l'inaugurer, mais il a eu du retard, parce que il y avait eu d'autres commandes encore pour d'autres villages. Et puis, nous, quand on est arrivé en même temps que le moulin, donc il y a tout le matériel dans les caisses, les tuyaux, des machins, tout ça. On a pris des photos avec les femmes qui étaient folles de joie, parce qu'il faut savoir que c'est au milieu de chaque village, il y a des grandes pierres qui font ronde, enfin, c'est du ciment, hein. ça mesure à peu près 4 mètres, 2-3 mètres de circonférence, enfin pas de diamètre. Et puis elles sont là, elles se mettent autour, et puis elles sont à genoux, puis elles moulent, comment on dit,
elles frottent
avec une pierre les graines, se cassent le dos, en plus la plupart du temps elles ont le bébé dans le dos. Alors d'avoir un moulin, pour elles, c'est, elles avaient des sourires édentés à n'en plus finir. Elles sont heureuses, quoi, parce que c'est un travail en moins, puis plus de problèmes de dos avec ça. Donc merci encore aussi à tous les donateurs. Ensuite, on est allé aussi livrer la pompe solaire. On avait promis une pompe solaire. Alors le château d'eau marche à plein. Il y a vraiment beaucoup de puissance. Et comment il s'appelle, Stéphane était choqué de voir que la pompe était si petite par rapport à celle qu'on avait au château. Mais je pense qu'ils ont dû faire des progrès. Maintenant, cette pompe, elle mesure quoi, à peine 2 mètres, quoi. Je veux dire, c'est tout petit. Mais mon Dieu, ça remplit le château d'eau. De combien de litres il fait ce château d'eau? Je sais plus, 15 000, je crois. Ouais. Et il le remplit en une demi-journée. Enfin, un peu plus. Tous les jours, ça le remplit. Donc, tous les jours, ils ont de l'eau. Il n'y a plus besoin. Voilà, encore une fois, de plus, c'est les femmes, la plupart du temps. C'est toujours les femmes qui vont chercher l'eau à des 10, 12 kilomètres. Là, c'est fini. Cette corvée est terminée pour ces femmes-là aussi. Et ça, c'est des centaines de femmes. Hein. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre un robinet par case. Et puis une ampoule aussi par case, ce qui font que les enfants, quand ils rentreront de l'école, ils pourront étudier le soir à la lueur d'une ampoule. Enfin, c'est mieux que le Moyen-Âge chez nous, mais c'est pas encore ça. Mais enfin, c'est déjà pas mal, c'est beaucoup, on est content, c'est des projets, et ça fait plaisir. Alors, autre réunion d'évangélisation. Alors, on peut pas compter le nombre de guérisons, c'est pas possible, parce que il y a beaucoup trop de monde. À part quelques guérisons spectaculaires, on peut pas compter. La plupart du temps, c'est les pasteurs ensuite qui nous rendent compte, qui envoient des photos et tout. Alors, Olivier rechante à chaque fois sa chanson en moré, grand succès à chaque fois. Aussitôt qu'il entend le chanter, au début il y a un refrain, c'est « oh, oh, oh », mais alors quand ils l'entendent chanter avec leur propre langue, alors là c'est des cris, ça fait plaisir. Et puis, le programme a dû être changé plusieurs fois parce que Nicolas Savadogo est en mer, il était convoqué à des réunions exceptionnelles, des machins et tout. Finalement, on l'a laissé à Ouaga, on est parti sur Fada. Et à Fada, c'est là où on a un ami qui s'appelle Boukari Kwadima. C'est un garçon que j'avais rencontré qui était pauvre, vraiment. Il apprenait la couture avec un vieux monsieur. Ce vieux monsieur, j'ai revisité de nouveau, nous avons revisité son atelier. C'était vraiment misérable, hein. Et j'avais prophétisé sur Boukari en disant qu'il allait réussir, et c'est une réussite absolument fantastique, puisque maintenant il a son propre centre, et vous avez vu, c'est moderne, il y a tout ce qu'il faut, il y a l'eau, l'électricité, tout, et puis alors il y a des centaines d'élèves couturières qui sortent de là chaque année, et c'est vraiment fantastique. Alors là, on a visité donc ce centre, et vous vous rappelez qu'on avait invité Boukari à venir avec sa femme. Et puis, comme ils étaient le couple, l'ambassade de France n'avait pas voulu donner le visa, pensant qu'ils voulaient déserter le Burkina et s'installer ici en France, comme beaucoup le font, d'une façon illégale. Donc il leur avait refusé le visa. Alors il m'avait dit, oh, c'est embêtant. J'ai dit, mais écoutez, gardez l'argent, des billets d'avion, gardez-le, faites-en ce que vous voulez, faites un petit voyage en amoureux, faites ce que vous voulez. Ils étaient tellement désolés de ne pas pouvoir venir. Et puis là, il nous a raconté ce qu'il a fait, Boukari. Alors ça m'a soufflé. Il a créé une école de coiffure. C'est-à-dire, il a acheté des têtes, des têtes de mannequins avec des perruques et des machins comme ça. Et il a maintenant, en plus de l'école de couture, il a créé une école de coiffure. Alors ça, c'est la générosité de Boukari. C'est un homme vraiment magnifique, vraiment gentil, magnifique. Plutôt que de se payer des trucs à lui, encore penser aux autres, toujours les autres, les autres, les autres. Alors voilà où vous passe votre argent, à vous les donateurs. C'est pas dans de la gnognotte, on fait des choses vraiment constructives, et avec des gens qui sont vraiment des gens de cœur. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, il nous dit, juste avant de partir, toutes les élèves étaient là sur le perron de l'école, et puis il nous amène deux, trois personnes qui étaient malades, dont une qui était une élève, qui est une élève, mais qui était sourde et muette. Alors, il demande qu'on prie pour elle. Alors, on prie pour elle, je mets mes doigts dans ses oreilles, je prie pour qu'elle entende, j'enlève mes doigts, et commence à être prise de convulsions. C'est-à-dire que c'était pas une maladie normale physique, mais c'était vraiment un esprit de sourdité, comme dit la Bible. Et il a fallu lutter pendant à peu près 20 minutes. Hein. On a filmé, c'est toi qui as filmé, je crois. Hein. Et on mettra ça, on mettra des extraits, on va pas vous mettre 20 minutes, mais cette femme souffrait terriblement, elle pleurait, elle gémissait, ils ont dû se mettre à trois pour la tenir, parce que l'esprit voulait pas sortir. Cet esprit de sourdité voulait pas sortir. Et finalement, je lui ai intimé l'ordre au nom de Jésus-Christ de sortir de cette jeune fille. Et il est sorti, mais il l'a un peu blessé. Il y a un peu de sang qui est sorti de son oreille, mais tout à coup, elle était toute étonnée, elle entendait, et puis même elle a, quand je dis ça va, elle dit oui ça va. C'était vraiment très émouvant, très beau. Alors Boukhari tout de suite a dit emmenez-la dans l'école, couchez-la, il faut qu'elle se repose. Toujours le cœur, c'est magnifique. Bon ben voilà, c'était magnifique, c'était beau. Et puis le soir, l'après-midi ou je sais plus le matin, je m'en rappelle plus. Boukhari a organisé une rencontre à la radio. Alors, on ouvre la partie à la radio, c'est là où on avait été déjà une fois avec toi, Philippe. Et puis, un quart d'heure d'émission de radio. Alors, évidemment, Olivier a chanté. Nous, on a chanté aussi avec Jésus, la vie est belle. Et puis, Olivier a chanté son chant, mais cette fois, pas en moré. Parce que à Fada, il parle un autre dialecte, il parle le gourmanché. Donc, il a vite avec quelqu'un traduit et il a chanté en gourmanché. Et ça a passé donc sur les radios. Et du coup, ça a eu du succès et Olivier et Lucas ont été invités pour participer à un concert qui avait lieu le soir même, c'est ça, hein, le soir même. Donc, nous voilà partis au concert. Moi, je me disais, oh, ça va être un petit... Tu parles, il y avait au moins 2500 personnes dans le concert. Et puis, il y avait des artistes qui se suivaient, tous des artistes du Burkina, hein. Alors, c'était des chants comme nous on connaît, hein. Ouélé, Maliba Makassi, Niani, Niani, Niani. Enfin voilà. Et puis voilà, mon Olivier et mon Lucas qui se présentent sur scène. Je parle bien. Ils arrivent tous les deux sur scène. Il y a un guitariste qui file une guitare basse à Lucas. Et puis Olivier, il avait sa propre guitare. Non, il a pris encore une guitare, une autre guitare, mais elle avait le truc, vous savez, qu'on met autour du cou, qui tenait pas. Alors il est tout plié sur scène, le pauvre, il souffrait. Mais il a chanté la chanson Gourmanché. Alors là, les gens se sont mis à crier, c'était formidable. Et puis, il y avait un producteur de CD qui était là dans l'assistance et il a dit, je fais cadeau d'un enregistrement d'un album pour ces deux-là, ils sont formidables. Donc, le lendemain, hop, on part au studio et on a enregistré c'était une expérience, c'était fantastique, parce que c'est pas un studio comme vous imaginez ici. Par contre, le matériel était excellent, et le producteur était non pas seulement un producteur, mais un musicien. C'est vrai, hein, Olivier? Et il a monté ça. D'abord, Olivier a joué la partie de guitare. Ensuite, il a mis les écouteurs et puis il a chanté dessus. Et puis après, il a dit, oh, ben, ça sert à rien de refaire 3-4 fois le refrain. On va faire un copier-coller. Enfin, vraiment un pro. Puis après, il a dit, bon, maintenant, tu vas faire des petits gimmicks par-dessus à la guitare. Et puis, une fois que tout ça s'était fait, il a choisi un rythme. Enfin, ils ont choisi un rythme. Et puis bon. Et après, il a dit, bon, ben, laissez-moi tranquille, je vais fignoler tout ça. Revenez, je crois qu'on devait retourner le lendemain, c'est ça?
Ouais.
Et le lendemain, on est arrivé, c'était vraiment parfait. Vraiment parfait. Et on va le mettre sur Révélation Bible aussi, d'ici quelques temps. Et puis, ça va venir. Pardon?
En trois langues.
Non, il va sortir en gourmanché, puisque c'est dans le pays où il parle de gourmanché, donc. Mais, après, quand on fera notre CD ici, on le fera aussi en trois langues. T'as raison, c'est une bonne chose. Voilà, ça va être bien. Donc, vraiment, c'était encourageant pour Lucas, c'était sa première scène en plus, hein, devant 2500 personnes, c'est pas rien. Hein, et c'était sympathique, tout le monde les adorait. C'était, enfin, on adore que Dieu, mais enfin, je me comprends. Hein. Donc voilà, c'était bien. Ils ont été présentés comme un groupe suisse. Ça m'a fait plaisir. Le lendemain, culte chez Boukharia. J'ai oublié de vous dire, Boukharia nous a réservé un hôtel vraiment magnifique. On avait des chambres aussi climatisées, salle de bain, un petit peu d'eau dans la douche. Pas exagéré quand même, hein, là-bas, il n'y a pas toujours de l'eau dans la douche. Enfin, il y en avait, on a pu se laver quand même. C'était bien. Et puis, alors là, il y avait beaucoup de monde au culte, et c'est là que Dieu a étendu sa main d'une façon extraordinaire, puisqu'il y a d'abord un petit garçon aveugle qui s'est approché, et, enfin, qu'on a emmené jusque vers moi, et j'ai mis un peu de salive sur mes pouces, j'ai mis ça sur ses paupières, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai chassé cet esprit de cécité, et quand j'ai enlevé mes doigts, ben, il me voyait, et il a commencé à faire les gestes que je faisais, il pouvait voir magnifiquement bien. Par contre, j'ai dû prendre une lingette pour enlever tout le pu et les saletés, les croûtes, les machins qui étaient sur ses yeux, parce que bon, personne ne le faisait. Pourquoi, je sais pas. Enfin bon, le gamin, il voyait. Suite à ça, une grand-mère s'approche aussi accompagnée. C'était la femme d'un pasteur qui était veuve et qui était aveugle depuis 4 ans. La même chose, je mets un peu de salive sur mes pouces, je mets sur les paupières, au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand je les enlève, elle voyait, elle pouvait faire tous les gestes. Et après, encore rebelote un autre. En fait, en tout, dans la mission, il y a eu 4 aveugles qui ont retrouvé la vue. Donc je dis, gloire à Dieu, c'était une bonne mission, béni de Dieu, hein, malgré tous les gens qui ont dit que je suis possédé. Alors si, peut-être c'est le démon qui fait ses miracles, hein. Hein, chacun voit midi à sa fenêtre. Hein. En général, les incapables aiment bien dire que c'est les démons, ceux qui font pas, qui font rien du tout.
On dit la sainte Jésus.
Voilà, qui se débrouille. Moi, je sais qui je sers et je sais qui exauce mes prières. C'était merveilleux. Et puis, il y a aussi eu une autre personne sourde aussi qui a entendu et qui était guérie comme ça. C'était magnifique. Ouais, c'est très beau. Puis alors, bon, autour, avec toutes les guérisons, on a compté avec Nicolas, les frères et tout le monde. On pense, on estime à, au minimum, hein, sans vouloir trop exagérer, 150 personnes guéries. Alors, ça fait beaucoup, on est content. En quelques jours, en 18 jours, c'est pas mal. Donc, ensuite, on a visité, donc, oui, l'école, je vous ai dit, l'école avec la petite jeune fille qui était malade, qui avait cet esprit de sourdité. Ensuite, l'évangélisation, de nouveau des dizaines de conversions, de nouveau quelques guérisons, et puis redépart à Ouaga. Alors, il faut pas vous imaginer une route avec des trous entre Fada et Ouaga. Il faut vous imaginer des trous avec un tout petit peu de route autour. C'est une horreur. J'ai dit à Nicolas, quand tu seras président de la République, il faut vraiment que tu refasses cette route, hein, parce que c'est vraiment pas beau. Alors, voilà, retour donc à Ouaga. Et puis là, on a visité un entrepreneur qui construit le prochain château d'eau qu'on va donner là-bas. Alors, c'est un immense château d'eau. Il est déjà presque tout construit. Et c'est un pas de foi. Nous, là, vous, les donateurs, et nous, on a donné déjà 3 000 euros. Mais le château d'eau en coûte 16 000. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre la main à la poche. Il manque encore 13 000 euros. Alors, je vous raconte pourquoi on fait ce château d'eau. Vous savez que le Sahel, ça se trouve au nord du Burkina. Et le Sahel, il avance. C'est-à-dire qu'il descend sur le sud. Et il y avait un village qui a commencé à être envahi par le désert. Il y a 1600 personnes dans ce village, et ces 1600 personnes, ben, elles ont dû quitter leur village, comme nous on a dû quitter le château pour d'autres raisons, mais eux, elles ont dû faire aussi un exode et quitter le village et s'établir dans un endroit. Et puis ils ont trouvé de l'eau. Vous savez, là-bas, ils trouvent de l'eau comme autrefois nous, avec les baguettes. C'est des baguettes de sourcier, pas de sorcier, mais de sourcier. Et donc ils ont trouvé de l'eau, et puis ils ont fait des essais. En effet, il y a beaucoup d'eau là-dessous. Par contre, il leur faut un forage, il leur faut un château d'eau pour que ça soit confortable. Donc Nicolas a eu à cœur de le faire. Il nous a demandé si on pouvait mettre la main à la poche. J'ai dit que pour le moment la caisse est vide, là on a 3000, mais c'est fini, après il n'y a plus. Maintenant, si vous avez à cœur, vous qui écoutez Révélation Bible, n'hésitez pas, ça sera pas... Vous avez les photos déjà mises sur Révélation Bible, elles sont déjà là, vous allez voir un grand château d'eau qui est par terre, et puis moi je suis à côté, là, voilà, vous allez voir ça. Donc il est déjà bien entamé, le travail est déjà bien entamé, parce que Nicolas est un homme de foi, et il dit au type, non, on va vous payer, vous inquiétez pas, on va vous payer. c'est un homme de foi, moi aussi, nous aussi, donc ça, je pense que ça va aller. Et puis là, après, Lucas et Olivier sont rentrés sur la France, et Nicolas et moi, on a décollé, on a pris l'avion, on est parti à Abidjan. On était reçu par le prophète Lévi, vous vous rappelez, le prophète Lévi, c'est celui qui avait prophétisé ma guérison et d'autres choses encore qui sont arrivées. Et voilà, je ne vais pas donner des détails parce qu'il y a des choses, ça, c'est notre vie privée, notre vie de communauté, mais on sait des choses qui vont arriver et avec une grande certitude et une grande joie. Donc c'était réunion sur réunion là-bas. Alors là, réunion sur réunion. Et on était aussi dans un hôtel. Alors quand j'ai vu la gueule de l'hôtel, je dis, mon Dieu, mais c'est quoi? C'est American Horror Story, ça. C'est pas possible. Par contre, quand on est rentré, Nicolas avait sa chambre, moi j'avais la mienne. Magnifique. Ils avaient refait l'intérieur alors que l'extérieur est pourri, mais pourri, sinistre. Moi, le soir, je sortais pas tout seul. Hein. Ah non, pas question de sortir de là. On fermait bien double tour. Voilà. Mais c'était formidable. Donc, ils viennent nous chercher. Réunion l'après-midi, réunion le matin, réunion le soir. Et puis, ils nous ont invités à aller au bord de la lagune pour manger des grillades, des trucs comme ça. Et c'était bien, c'était formidable, le pasteur, le prophète, parce qu'il est vraiment prophète cet homme, c'est vraiment curieux, c'est étonnant, il vous dit des choses, il dit des choses, là il a prophétisé encore sur ce qui va nous arriver à nous, ici à la communauté, et je vous l'ai dit, c'est très réjouissant, voilà, et ça confirme ce que Mélodie avait prophétisé aussi, et c'est exactement la même chose, et pourtant ils se connaissaient pas, hein, c'est pas possible, et ensuite il a prophétisé aussi sur Mélodie, mais c'est des choses très personnelles, qui concernent son avenir, et c'est très réjouissant, mais plein de... c'est lourd, parce que c'est une femme qui a un avenir spirituel important. Mais il la connaissait pas, mais en vision, il a visité la maison. Il a visité la maison, c'est étonnant. C'est vraiment très étonnant. C'est des ministères comme ça, comme il y en a plus en France, enfin du moins je connais pas ceux qui sont français et qui ont des dons de prophétie comme ça, ou un ministère de prophète comme ça. Je connais des prophètes à la gnognotte qui prétendent être la nouvelle Jérusalem à eux tout seuls alors qu'ils sont cinq, mais bon, ça c'est une autre histoire. Le 15 arrive et Nicolas arrive, il me dit, Michel, ça y est, ça recommence. Je dis, quoi donc? Ça tire partout dans les rues. Je dis, ah bon? Vous savez que j'avais déjà vécu un coup d'État en Côte d'Ivoire quand, avec l'histoire du Gbagbo. Ensuite, on a vécu un coup d'État avec Olivier et Francis là-bas aussi à Ouaga. Et puis là, le dernier jour, ça tire. Alors qu'est-ce qui se passait? C'était des militaires qui se sont révoltés, pas tous, mais quelques militaires se sont révoltés parce qu'ils n'étaient pas payés depuis des mois et l'État leur devait l'équivalent de... En franc-ancien, je ne peux pas vous dire en euros, je ne sais plus comment on fait le calcul, mais en franc-ancien, c'était l'équivalent de 180 000 francs. C'est quand même pas rien. Donc ils en avaient marre, ils ont décidé de se révolter, alors ça tirait dans les rues. Alors j'ai dit à Nicolas, écoute, ça devait être 9 heures le matin, j'ai dit, vous me conduisez tout de suite à l'aéroport. Nicolas me dit, tu vas prendre une balle perdue. Je dis, non, le Seigneur me protège, et là où je serai le mieux, c'est à l'aéroport. Parce que le gouvernement, ce qu'ils font d'abord, c'est d'encercler l'aéroport et d'encercler la télévision pour pas que les rebelles puissent prendre la télé ou l'aéroport. Donc je serai plus en sécurité là-bas. C'est le moment de partir. Pour le moment, ils sont en train de commencer la révolte, mais ça va aller grandissant dans la journée. Emmenez-moi. Nicolas ne voulait pas. Moi, je voulais. Enfin, finalement, c'est moi qui ai gagné. On est parti à l'aéroport. Et l'aéroport, bon, il y avait plein de monde aussi qui voulait partir. Moi, j'avais mon avion à 22h15, donc j'ai dû attendre. C'était un peu long, mais bon, j'ai lu, j'ai prié, j'ai lu, ça allait. Et mais quand on est arrivé, il y a un King Burger là-bas, à l'aéroport. Donc, ils voulaient pas manger, ils avaient l'estomac noué. J'ai dit, mais on peut pas s'asseoir et pas manger. Ils disent, bon, si, on peut. Je dis, non. Alors, j'ai été chercher des glaces pour tout le monde, ils étaient contents. Et puis, au bout d'une heure, je leur dis, maintenant, vous rentrez chez vous parce que vous pourrez plus passer. Et ils ont regardé sur internet, ils ont dit oui c'est vrai, ils sont en train d'encercler, l'armée est en train d'encercler l'aéroport, on ne pourra plus sortir d'ici. Alors ils sont vite partis, et une heure après ils m'ont téléphoné, ça y est on est bien rentré, tout va bien. Puis moi j'ai attendu, et quand j'étais dans l'avion j'ai envoyé un SMS, ça y est je décolle, je suis moi. Et ouf, mais vous savez ça fait drôle, hein, ça fait drôle, c'est tout est exagéré là-bas, tout est exagéré. Tout est énorme. Moi, je me rappelle, Osborne avait dit, vous allez voir, quand vous serez en Afrique, les démons sont beaucoup moins virtuels qu'en France. C'est vrai. Lucas avait jamais vu, c'était la première fois, mais la première fois qu'il a vu une séance d'exorcisme là-bas, il ouvrait des yeux tout ronds, hein, Lucas, et ça fait drôle, hein. Ça fait un drôle d'effet de voir ça. C'est très fort, hein. Très, très, très violent, très fort. Et, mais c'est même pas moi qui faisais l'exorcisme, c'est les démons qui se manifestent tout d'un coup comme ça, et puis il y avait, je sais pas, moi, je veux pas exagérer, mais il y avait une douzaine, une quinzaine de personnes qui il faut le voir pour le croire. Enfin, nous on l'a vu. Voilà. Donc j'insiste pour que on me conduise à l'aéroport, je prends mon avion, je rentre. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Il y a beaucoup de gens qui me disent Dieu m'a dit, va ici, va là, fais ceci, fais cela. Moi, j'admire ces gens-là à qui Dieu parle tout le temps. Je trouve ça extraordinaire, moi. C'est très rare, c'est très rare. En fait, je peux dire, pour ainsi dire, que Dieu m'a jamais dit d'aller en Afrique, en fait. Mais, parce qu'on a vraiment besoin que Dieu se déplace pour venir nous dire une chose qu'il a déjà dite. C'est ça le grand truc. Je regarde dans Marc chapitre 16, et je lis, c'est Jésus qui parle, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons, etc. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. » Et au verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ben pour moi, ça, c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas un ministère, mais que vous êtes un simple enfant de Dieu, ben vous rendez témoignage, vous réunissez des personnes, vous leur parlez. Et puis, si vous avez un ministère qui est reconnu, évidemment, ça veut déplacer des foules, ben, il va falloir une petite estrade, ou une grande estrade, un micro, mais ça revient au même. Ce qu'il faut, c'est que l'évangile soit prêché. Hein. Et il faut témoigner, il faut prêcher, tout ça c'est le même mot, pour que les gens sachent. Alors Osborne, il avait sur son estrade des fois 200 000, 300 000 personnes, nous on n'en est pas encore là, mais on a quand même plusieurs milliers de personnes qui nous écoutent et qui reçoivent l'évangile comme ça, et c'est magnifique. Mais si vous êtes un simple chrétien qui n'avait pas reçu un ministère particulier d'évangéliste, vous pouvez toujours être un témoin et témoigner, faire du 1 à 1 ou du 2 à 2, aller dans les familles. On est tous appelés à faire ça. Dans la Bible, c'est dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle ». Le monde nous est ouvert. Mon monde est là et mon appel, il est dans Marc 16, 15 à 17. Il suffit de prendre, si vous voulez aller un peu plus loin que votre bled, il suffit de prendre un bus, aller dans le bled à côté. Si vous avez un peu plus d'argent, vous prenez un billet d'avion, vous allez dans un pays un peu plus loin. Mais le monde entier est à vous, pourvu que vous alliez pas faire du tourisme, mais que vous alliez pour prêcher l'évangile et guérir les malades, chasser les démons. Si vous faites ça, Dieu sera avec vous toujours. Il va pas vous dire, non, je suis pas d'accord, je veux pas. Non. Il sera tout content que vous alliez le faire parce qu'il a ordonné qu'on aille le faire. Maintenant, s'il veut pas que vous alliez, je sais pas, dans un pays particulier, eh bien, il mettra des barrières pour que vous ayez pas le visa ou les trucs comme ça. Vous saurez que vous ne pouvez pas aller là-bas. Ben, vous changez votre billet d'avion, vous allez ailleurs. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Il y a pas besoin. Il y a des gens qui prient des années. Ils viennent vieux. Je me rappelle d'un vieux monsieur. Je veux pas dire son nom parce qu'on peut le salir, mais quand il m'entendait, il pleurait, il disait, Dieu, j'attends toujours l'appel de Dieu, mais maintenant je suis très vieux, je suis malade, je peux plus bouger. Mais il attendait l'appel de Dieu. Mais Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il est dans la Bible, l'appel de Dieu. Allez par tout le monde. Ah oui, mais Jésus a dit ça aux 12. Mais pas du tout, il a dit à tous ceux qui sont disciples, c'est tout. Hein? C'est la vérité. Alors, je voudrais qu'on lise encore un autre texte, c'est dans Matthieu 25, 31, 46. Matthieu 25, 31, 46. C'est encore le Jésus qui parle et qui dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Vous savez que le bouc, c'est pas le mâle de la brebis, hein? Ça n'a rien à voir, n'est pas la même nature. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, parce que vous avez été posé votre derrière dans une réunion, vous avez levé votre main, et le bon pasteur vous a trempé dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de la Sainte Trinité. » Ah non, c'est pas ça, excusez-moi, c'est pas ça. Vous qui avez été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères humains, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondirent aussi, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen.
Amen.
Hein, il suffit pas simplement de se réunir et puis de dire Alléluia, et puis de prêcher, et puis de se chatouiller les ailes, mais il faut aussi faire de l'humanitaire. Il faut aussi prendre soin des autres. Voilà, on ne doit pas que prêcher et guérir les malades. On doit s'occuper aussi de nourrir les affamés. Eh bien, mes frères et sœurs, avec tous nos partenaires de C'est Faisable, nous l'avons fait. On ne se glorifie pas, mais on l'a fait. Les assoiffés, on leur a donné de l'eau. On l'a fait. Hein? Avec les pompes, les forages, les châteaux d'eau, ça on leur a donné à boire. On ne se glorifie pas. On dit gloire à Dieu, c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence pour le faire. Et les autres sont tellement spirituels qu'ils ne sont pas assez intelligents pour le faire. Voilà. Ben, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Hein? Ils n'ont pas reconnu que la pauvre vieille qui venait toute courbée et qui avait même pas un sac pour pouvoir récolter le maïs qu'on allait lui donner, eh ben, ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus, cette pauvre petite vieille. Nous, on a reconnu, c'est pourquoi on l'a fait. On recueille les étrangers, il faut vêtir les gens qui sont nus ou pauvres, visiter les prisonniers. Est-ce que Dieu doit nous le redire? Non, il l'a déjà dit, c'est écrit dans la Bible. Pour moi, c'est comme s'il me l'avait dit en face à face. C'est tout. Ça me suffit. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je m'organise. Et si je vais tout seul avec ma petite retraite de 780 € pour faire tout ça, ben, ça ne va pas faire grand-chose. Pourquoi j'ai une petite retraite comme ça? Parce que j'ai donné 7 ans de ma vie à la France pour aider à sauver des drogués, des prostituées, sans salaire, bénévolement, je fais ça. Alors évidemment, maintenant, je me retrouve avec une petite retraite de minable. Réellement, je vis sous le seuil de la pauvreté. Mais, gloire à Dieu, je vis pas mal. C'est bien. Pourquoi? Parce que nous mettons en commun, nous sommes comme dans la véritable Église, nous mettons toutes choses en commun et ça va pas trop mal. Ça va bien, même très bien. Et, mais avec 780 euros, comment voulez-vous que moi j'aille nourrir les foules? Comment voulez-vous que je vais pas pouvoir nourrir beaucoup de gens ni en visiter beaucoup, n'est-ce pas? Alors, eh ben, je vais taper aux portes. Et puis j'intéresse les gens à me donner de l'argent pour aller le donner sous forme de nourriture, sous forme de château d'eau, sous forme de fournitures scolaires, sous forme de forage, sous forme de pompes solaires, etc., etc., comme on a fait là ces 18 derniers jours. Et puis on a, ça fait des années, ça fait depuis 2000, l'an 2000 qu'on va là-bas en Afrique 2-3 fois par an pour faire tout ça. Et il y en a qui me font confiance et qui me donnent de l'argent pour que je puisse aller faire ça pour l'œuvre de Dieu, et puis d'autres qui ne me font pas confiance et qui ne me donnent rien. Puis voilà. Alors Jésus dit, il y a les brebis, puis il y a les boucs. Pardon, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jésus. Alors c'est à Jésus que vous allez avoir affaire. Ouais. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ceux qui me donnent mettent en pratique Matthieu 25, 31, 46 en pratique, ils le font, Et ils le font en tant que moi, quand j'y vais. C'est-à-dire que quand je pars et que je donne toutes ces choses à Lucas Olivier, quand on a distribué tout ça, c'est pas nous qui avons fait. C'est ceux qui ont donné. Nous, on était là, bien sûr, on a donné aussi un petit peu. Mais c'est surtout tous ces gens, tous ces donateurs, ces gens généreux, ces gens qui ont un cœur, qui sont d'authentiques chrétiens. Vous, mes frères et sœurs qui avez semé, vous ne perdrez pas votre récompense. C'est vous qui avez donné à manger à ces pauvres. C'est vous qui les avez vêtus. C'est vous qui les avez nourris. C'est grâce à vous qu'on a pu aller mettre nos mains sur eux pour qu'ils soient guéris. C'est vous. Moi, je n'aurais pas pu aller tout seul. Tout seul, je ne pouvais pas. Et là, je suis encore invité à retourner en février 2018 à Abidjan, parce que le prophète a trouvé mon ministère, il l'aime beaucoup, et puis il m'a présenté d'autres pasteurs. Donc voilà, je vais encore aller faire des tournées là-bas. Alors, ça va être encore formidable. Mais les caisses sont vides. Vides. Alors, mais on a jusqu'au mois de février. Hein? Alors, on va y aller. Je tape aux portes. Donnez. Allez-vous faire... Est-ce que vous allez me faire confiance ou est-ce que vous n'allez pas me faire confiance? Si vous me faites confiance, vous allez envoyer des dons. Vous pourrez le faire en toute sécurité avec PayPal qui est sur notre site Révélation Bible, tout en haut sur la première page là. Et puis vous pouvez donner ce que vous voulez. C'est pas la somme qui compte. Vous savez, la pauvre veuve, elle a donné peu, mais en fait, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et c'est ça que Jésus regarde le cœur. Il regarde le cœur. Si vous êtes un multimilliardaire et que vous donnez 3 millions, c'est peu par rapport à une veuve qui a 3 sous, et c'est tout ce qu'elle a. Vous voyez, Dieu regarde le cœur comme ça. Vous voyez avec votre propre cœur ce que vous pouvez faire pour l'œuvre de Dieu. Tous les chrétiens sont contents parce que Jésus revient bientôt, mais quand il va revenir, ben, il y en a qui seront à sa gauche, d'autres à sa droite. « Non, mais Seigneur, on a toujours cru en toi. Seigneur, Seigneur, oui, mais vous n'avez pas fait ma volonté. » C'est terrible. Alors, évidemment, c'est un peu choquant ce que je dis là ce soir. Mais croyez-moi, Lucas, Olivier et moi, on revient d'un voyage choquant. On a été choqués. Quand on parle de pauvreté, est-ce que vous imaginez, on a vu des pauvres. Mais quand on imagine que même les militaires ne sont pas payés, vous voyez un petit peu l'état de ces pays-là. Vous me dites, il y a beaucoup de corruption. Oui, mais pas nous, on n'est pas corrompus. Nous, l'argent, il va véritablement aux gens, aux vrais gens. Amen. Donc voilà, si vous ne me faites pas confiance, voilà, ça vous regarde. Alors, vous pouvez faire en pleine sécurité, c'est sur la première page de notre site, donner, et ainsi, Dieu... Vous serez en train de faire la volonté de Dieu. Priez, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, si un juif vient me poser la question, je lui dis, la volonté de Dieu, c'est que les juifs retournent dans leur pays. Va dans ton pays. Voilà. Hein? Si un non-juif me dit qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu, ben, la volonté de Dieu, ben, c'est que tu fasses, c'est pas que tu es allé en Israël ça, pour y vivre, non, mais c'est tout le reste là, hein, Matthieu 25, là, ça tu peux, ça c'est la volonté de Dieu. Alors avant de chercher une volonté de Dieu spéciale, adaptée à ta petite personne tellement importante, fais déjà ce que Jésus dit de faire, hein, c'est normal, moi, il me semble, enfin, c'est vous qui voyez. Voilà, moi je sais ce que j'ai à faire et je le fais, je suis content, j'ai la conscience tranquille. Moi, ce que j'ai à faire, ça se trouve dans Marc 16-17 et dans Matthieu 25-31-46. Il y a encore d'autres choses, mais en tout cas ça, c'est le numéro 1, comme disait Osborne. Et vous ? Eh bien, soyez avec moi dans ce travail pour Dieu, pour les plus démunis, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs, de les aider à comprendre que je ne suis pas en train de chercher leur pognon, mais que je cherche leur cœur, et que leur cœur se mette à bouger dans le bon sens, dans le sens de ta volonté. Merci Jésus. Amen.
Amen.